happen.
Groovy.
Bonsoir, François Stressart et la belle équipe en piste. Il est 20h, c'est la récré de France Culture. À l'affiche, le pamphlet de Sophie Divry et le doux rêve d'Odile Conseil en forme d'homophonie. Courage, c'est bientôt l'été.
Les parents, férus l'un et l'autre d'histoire antique et de Goscinny, avaient affublé leurs enfants de prénoms idiots. Ptolémée, Cléopâtre, Amon Beaufils et Numéro Bis. Oh rage, c'est bien Ptolémée.
Courage, c'est bientôt l'été. Elle est quasi parfaite.
Mais n'est qu'intermédiaire.
Gérard Mandia et Hervé Le Tillier joueront, eux, avec l'herbe pour aphorismes et périls, suivi de Jacques Vallée, Lucas Fournier, Jean-Bernard Pouy pour les gonfleurs de textes. Quant à Patrice Delbourg, il sera un des experts du DLA.
Et je ne pense pas qu'il s'agisse de D'Artagnan, je pense plutôt que c'est la conquête du Nouveau Monde, c'est Buffalo Bill.
Ah oui.
On est plutôt donc dans la conquête de l'Ouest, quand il dit « Une exaltation me vint toujours de la possession présente de ceci ». Qu'est-ce que c'est ceci ? C'est l'or.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Salut la compagnie. Pour le podcast, direction franceculture.fr. Pour les échanges, on se retrouve sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux auditeurs du samedi soir. Et place à Sophie Divry, romancière essayiste. Après avoir été auditrice des Papous, eh bien, elle a rejoint notre bande d'écrivains joueurs depuis presque 2 ans maintenant. Elle est joyeuse, rieuse, mais attention, quand elle cogne, elle ne met pas de gants. Par exemple, quand elle s'attaque aux filles qui nouent et dénouent leurs longs cheveux à tout moment, ça l'horripile, elle, la fille aux cheveux courts. Qu'est-ce qui vous énerve encore, Sophie ? Je parle des petites choses, hein, pas des drames de l'humanité.
Pour venir ici, Françoise ?
Oui.
Je me suis encore perdue dans les travaux de la maison de la radio. Je suis énervée.
Ah, oui, ça.
Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais me venger. Et comment ? J'avais posté un commentaire sur Internet, sur la page de référence Google. Mais si, Françoise, on n'avait qu'à taper « maison de la radio » sur ce moteur de recherche Big Brother sien, et vous verrez de vos yeux... Il y a déjà 600 avis Google sur votre lieu de travail.
Ah oui, oh, ça m'étonne pas. Oui.
La maison de la radio est notée. Elle est notée d'ailleurs 4,5 étoiles sur 5 par les internautes. Pas mal. Et moi, je vais faire baisser la note. Ça me rendra justice après m'être perdue au milieu des plâtres labyrinthiques. Et je ne vois pas pourquoi. Ma petite expérience resterait au niveau de l'anecdotique.
Non.
Alors pour ceux qui aiment noter, évaluer, se venger, se déchaîner, pour ceux qui pensent que leur opinion est tellement indispensable, hein, ce sont plutôt les hommes, les commentaires Google sont là pour vous. Utilisateurs et consommateurs, visiteurs et usagers ont la parole et peuvent noter. Tout le monde est devenu professeur sans certification. C'est le bulletin de notes, 24 heures sur 24, toute l'année, le sondage permanent, la cotation en continu, en langue universelle d'ailleurs. Mmh. Google comprend si bien la condition humaine contemporaine. Il permet de tout noter, votre restaurant bien sûr,
hein. Oui.
Votre hôtel, votre Airbnb, c'est connu. Mais aussi la place Bellecour ou la place Stanislas, votre piscine préférée, le château de Versailles, beaucoup beaucoup de commentaires,
oui.
La ville de Rome, mais aussi votre institut de beauté, votre pharmacien, votre cinéma. Mais aussi votre docteur, mais oui, votre école, ou le service d'urgence de votre ville où vous avez attendu 4 heures.
Hein? Mmh.
Bon, en général, ça ne va pas plus loin que « Super resto, j'adore leur tiramisu, dommage, il n'y en a pas le mercredi.
»
Ou « Franchement, un scandale, faire payer l'entrée 12 € le jour de la journée du patrimoine. » Sick.
Ah bon ? Ouais. Ah oui ?
Oui, ça c'était pour Versailles, je crois. Sans parler de ceux qui se contentent de noter muettement par l'attribution d'étoiles de 1 à 5, sans savoir ni quoi ni qu'est-ce. Mais toutes ces petites notations font comme une cartographie. Vous n'avez qu'à regarder un plan autour de vous sur Internet, vous les verrez apparaître. Le monde entier autour de moi, surtout en ville, est noté. Oui, en ville, parce que les ploucs hospitalisés à la campagne pour fracture numérique, ils sont plutôt rendus cool. Dans ce grand plan de la notation, je fais mes courses au supermarché, noté 3,9, caissière toujours souriante, super. Puis je vais prendre un café au petit PMU du coin, 4,1. Sympa, sauf les toilettes craignos. Je dois passer à la poste. Le pire bureau de la ville, c'est tous des feignasses. Et enfin, je pense aller au restaurant ce soir, un Libanais, noté 4,7. Ce restaurant est vraiment the place to be. Mais attention, attention! Si je ne suis pas contente ce soir de mon restaurant, je pourrais partager mon expérience. Ils ont qu'à bien se tenir.
Qu'est-ce que vous en pensez, Eva? Vous qui êtes toujours sur Internet.
Moi, je pratique, donc à la fois, j'aime bien les avis des gens.
Là,
quand je me suis acheté un jouisseur pour faire mes jus de légumes, qu'est-ce que vous pensez que j'ai lu en premier? Mais les avis.
Ah oui.
Ah, ce sentiment de puissance, de revanche, du petit consommateur ou de la victime, qui peut enfin régler ses comptes avec le désagréable serveur de café, le plombier toujours en retard, le guichetier pas aimable, la grève SNCF. Ah, je vois les choses en noir. Peut-être au fond, il faut être plus démocratique. Ces commentaires Google, c'est l'agora permanente, c'est le partage d'expérience. Hein. Et c'est très agréable de connaître à l'avance les traquenards du musée du Louvre ou le risque de gastro-entérite du McDo et de la Guillotière. Car faut-il jeter la pierre sur la toile? Je vous le demande. Eh bien, essayons. Jetons la pierre.
Allez.
Ah mince, la pierre est tombée à travers le quadrillage de la toile du filet du web. Elle est tombée sur le sol raboteux du monde du travail. Eh oui, tout commence là, même pas à l'école. En entreprise aussi, vous êtes noté maintenant. Salarié comme cadre, chef comme manager. C'est l'entretien individualisé. Évaluez vos collègues dans le bureau de votre supérieur. Ou en secret, sur un logiciel. Ou pire encore, faites votre autocritique. Ça crée des drames, hein, ça rend stressé, infantile, puéril, tyrannique. Mais nous sommes tous jugés. Mais pourquoi ne pas noter les individus? On note bien le lave-linge d'Arty, le livre qu'on vient de lire, ou votre nouvel amoureux sur un site de rencontre. Notez, 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 il en restera toujours quelque chose. Je vais vous confier une histoire. Une amie récemment m'a demandé de l'aider dans son bilan de compétences. Il s'agissait de remplir un questionnaire, anonyme bien sûr, pour la noter, elle, pour évaluer sa capacité à aller au bout de ses projets, à écouter les critiques. Mais moi j'étais assez mal à l'aise, mais elle était tellement contente que je l'aide à progresser. C'est la nouvelle morale. Notez-vous les uns les autres. C'est la correction fraternelle indéfrisable. Mais ça ne s'adresse pas qu'aux petits. Allez voir sur le site de l'Élysée. Sur le site de Matignon, sur le site de Vatican, tout le monde est noté.
Le pape, il est noté combien?
Allez voir, il y a des milliers d'avis Google. Il suffit de cliquer, là, ça apparaît. Et quand nous mourrons, Dieu lui-même, s'il fait une apparition, donnera alors le dernier grand commentaire. Il statuera sur vous en jugement dernier, selon les étoiles. Mais qu'il se méfie, car il se peut bien que quand il vous aura envoyé gémir dans le feu de la Géhenne, il se peut bien qu'il y ait encore au milieu de l'enfer, entre deux flammes, un de ces petits portiques ridicules, comme on voit à la FNAC, avec trois boutons en forme de smiley, rouge, orange ou vert, et qui vous demandera « Avez-vous aimé votre visite ?»
Quand les jours sont plus courts que nos nuits, qu'il fait froid, avec un vent emporté loin votre parapluie, on se dit tout bas « Courage, c'est bientôt l'été !» Et si on jouait avec cette formule rassurante, on écrirait des histoires qui commenceraient par « Courage, c'est bientôt l'été !» et se termineraient par une phrase homophonique. On peut même se faire un petit plaisir supplémentaire avec une homophonie intermédiaire. En piste, Patrick Béniaud dit le conseil et Jacques Vallée « Courage, c'est bientôt l'été, prends ton mal en patience !» Comme si l'été, c'était toujours mieux que l'hiver. Je suis pas sûre, moi. Et vous, Patrick?
Moi non plus.
Voilà, c'est bon d'avoir
enfin
froid.
Enfin, un point d'accord entre nous.
Écoutez, il a fallu un certain nombre d'années pour qu'on y arrive. Alors, vous avez écrit une histoire qui démarre sur
bien,
courage,
oui.
C'est bientôt l'été, et qui s'achève sur une homophonie approximative. C'est un récit.
C'est un récit.
Oui, c'est bien.
Et c'est allègre, j'espère. Courage, c'est bientôt l'été. J'ai toujours trouvé cette expression idiote.
Voilà, surtout, c'est ce qu'on disait.
Surtout dans la bouche de ma tante Charlotte, qui ne cessait de l'employer. Heureusement, je la rencontrais rarement, car elle habitait dans le Rouergue. Mais quand tante Charlotte débarquait à la maison, on ne cessait d'entendre cette creuse expression à tout propos, et quelle que fût la saison. J'ai jamais pu savoir le sens que tante Charlotte donnait à cette expression, mais je crois bien que ce n'était qu'un tic verbal dépourvu de toute signification. L'autre caractéristique de ma tante était son énorme appétit et la volonté de préparer des repas pantagruéliques. Sa voracité était inlassable. Quand nous en étonnions, en lui laissant entendre qu'elle devrait manger un peu moins, elle nous répondait avec un grand rire « On est comme ça dans le Rouergue ». Pas moyen de discuter. Elle est morte d'une chute apparemment sans gravité qu'elle fit à Saint-Rémy-de-Provence en sortant d'une exposition consacrée à Miro. Ce mauvais peintre est ainsi à l'origine de la mort de ma pauvre tante Charlotte. Cette fin est d'autant plus triste qu'elle n'aimait pas du tout Miro. Elle n'avait été voir l'exposition que parce qu'elle confondait toujours Miro et Delacroix.
Ah bon ?
Et qu'elle appréciait beaucoup ce dernier. La dernière fois que j'ai vu tante Charlotte, c'est dans une affreuse villa près de Dieppe qu'elle avait louée pour les vacances et où elle nous avait invités à dîner. C'est là, dans cette villa grise et triste, sale, déprimante, étriquée, mal meublée, moche en un mot, c'est là que j'ai vu pour la dernière fois son immense gourmandise et son vaste appétit. Avant de passer à table, je lui demandais quel était le menu et elle me répondit « potage et vin gâteau épais ».
Courage, c'est bientôt l'été. Potage et vin, vin le chiffre.
Oui.
Ah oui, ça fait beaucoup, hein. Gâteau épais. Vous étiez gâtés. Et après, pouf, elle est morte peu de temps après.
Peu de temps après, à l'autre bout de la France.
Odile Conseil, si vous passiez à votre tour sur cette phrase imposée, courage, c'est bientôt l'été. Vous la trouvez bête aussi, comme Patrick ?
Pas du tout, je la trouve très encourageante.
C'est un signe d'espoir, quoi. Vous avez fait un poème ?
Non, un récit. Un récit qu'on pourrait dire botanique, voire arboricole.
Ouais, vous allez nous impressionner.
Vous me le direz à la fin. Courage, c'est bientôt l'été, disait la maman arbre, qui était aussi, à vrai dire, le papa arbre, à ses nombreux rejetons, pardon, ses nombreux surgeons, qui avaient pointé le nez, pardon, la branche, à la faveur des beaux jours, et se plaignait à présent amèrement d'avoir froid du bout des pieds, pardon, des racines, jusqu'à la pointe des cheveux, pardon, jusqu'à la feuille desséchée qui restait vaille que vaille accrochée à leurs branchettes, et menaçait, si ça continuait comme ça, de s'arracher au domicile familial, pardon, au voisinage du tronc materno-paternel, et de suivre l'exemple des grues qu'ils avaient vues passer en nombre et en formation au-dessus de leur tête, pardon de leur ramure, en route vers les cieux toujours bleus des pays merveilleux où jamais ils ne caillent. Pardon, des grues ou des cailles ? Demanda maman arbre, distraite par le zonzonnement agaçant d'un drone d'oiseau qui évoluait entre ses branches, détruisant les nids qu'elle se faisait fort des bergers. L'enseigne clouée sur son tronc ne disait-elle pas « Au bon accueil, tout volatile bienvenu, nid douillé à tous les étages ». Quand elle comprit que cette machine volante était manipulée par le fils aîné des humains qui habitaient la maison d'en face, son sang, pardon, sa sève, ne fit qu'un tour. Elle le vit, elle rougit, elle pâlit à sa vue. Pardon, rien de tout cela ne fut visible à l'observateur, mais soyons bien sûrs qu'un trouble s'éleva dans son âme éperdue. À ce moment de l'histoire, il faut que vous sachiez que dans la maison voisine vivait une famille dotée de 4 enfants. Les parents, férus l'un et l'autre d'histoire antique et de Goscinny, avaient affublé leurs enfants de prénoms idiots, pardon uniques, Ptolémée, Cléopâtre, Amon Beaufils, c'était le Benjamin, chouchou des parents, et Numéro Bis, jumeau du précédent. Mais ces deux derniers ne nous importent guère, je vous le dis, pour qu'il ne me soit pas reproché d'avoir amputé la famille de 2 de ses membres. Oh rage, c'est bien Ptolémée.
Ah, ding, ding. Courage, c'est bientôt l'été. Elle est quasi parfaite.
Mais elle n'est qu'intermédiaire.
Oh
rage, c'est bien Ptolémée qui s'en prenait ainsi à ses pensionnaires, pardon, aux oiseaux, qui détruisaient leur domicile, pardon, leur nid, et piétinaient au passage sans vergogne ses propres rejetons. Maman arbre tenta bien de lui griffer sauvagement le visage d'un coup de branche fourchue, mais faute de vent, jamais là quand on en avait besoin, celui-là, elle ne réussit qu'à déclencher un petit frisson d'indignation dans les feuilles mortes mais tenaces qui étaient trop attachées à leurs branches pour la laisser tomber au prétexte fallacieux que l'automne puis l'hiver étaient venus. Autant maman arbre détestait Ptolémée, autant elle aimait Cléopâtre. Une enfant gracieuse qui grimpait sur ses branches, légère comme un moineau, vive comme un écureuil, gaie comme un pinson. D'ailleurs, tous les garçons des environs en pinçaient pour elle. Jules, César, Marc, Antoine. Mais Cléopâtre n'aimait rien tant que s'installer au creux d'une branche haute et contempler le ciel. L'arbre était son domaine, sa maison, son doudou, son remède à tous les maux de la vie. Quand elle avait mal ici ou là, elle susautait un bourgeon, mordillait un bout d'écorce, mâchonnait une feuille. Maman arbre acceptait toutes ses atteintes à son intégrité physique. Elle était fière même de se sentir arbre thérapeutique. « Tout ce qui vient de moi », se vantait elle-même in petto, « ça soulage, c'est bien toléré. »
Oh, somptueux, courage, c'est bientôt l'été, ça soulage,
c'est bien toléré.
C'est bien. Mais d'où vous viennent toutes ces idées, Odile ? C'est toujours très mystérieux pour moi, parce que moi je vous impose une petite phrase comme ça. qui est pas bien formidable, mais qu'on entend.
Mais vous voulez quand même pas que je révèle
après...
tous mes secrets à l'antenne,
ah,
Françoise.
Mais quand même.
Chez Goscinny.
Alors, vous pensez à Ptolémée, vous pensez à Phèdre, évidemment, puisque vous reprenez des répliques entières, et puis vous construisez une histoire d'arbre. Non, je suis très ébluffée. Vraiment. C'est sincère.
Il y a l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, il y a Odile qui murmure à l'oreille des arbres.
Ouais. Pardon, aux feuilles.
Et des feuilles,
oui.
Et des feuilles. Jacques Vallée, ah bon, c'est pas simple, hein.
Ah ben non.
Ils ne les ont pas toutes prises, les homophonies ben, possibles.
Certaines, on retrouvera des...
Des bribes.
Des chutes.
Des chutes.
Et plus dure sera la chute.
Bon, et chez vous, c'est poétique.
Non, j'ai prévu d'écrire un livre entier sur un héros que j'ai découvert qui s'appelle Michel H.
Michel H.
Oui, ce sera des courts chapitres.
Oui.
Cet épisode, Michel H. est en stage, il suit un stage.
Ah oui.
Donc voilà, et après il sera à l'hôpital, après il sera
à
la radio.
Ah oui,
après,
c'est comme
sera...
la série des Martines.
Et voilà, il sera... Ouais. Comme ça j'ai un sujet pour
ah bah, c'est
un
très bon
siècle,
sujet, oui.
J'ai pensé à l'avenir, là.
C'est pour... bien, c'est bien.
Courage, c'est bientôt l'été, se dit le jeune Michel H. en souriant. Nous étions en hiver, il n'avait plus que 5 mois à attendre. Il suivait depuis une semaine un stage d'informatique. On lui avait dit « l'informatique, c'est l'avenir ». Et bien qu'il soit imperméable à l'avenir, il s'était dit « pourquoi pas ». Michel H., qui n'avait aucune disposition particulière, aucune compétence, s'avéra encore plus réfractaire dans le domaine informatique. L'animateur du stage n'avait jamais vu un cas aussi retors. Michel H. resta prostré devant sa machine et devant le radiateur, ne voulant rien savoir des logiciels intégrés, de leurs avantages, comme s'il était en présence d'un monde qui ne le concernait pas. L'animateur devant ce blocage est plutôt embêté.
Ouh, c'est une intermédiaire. Alors, courage, c'est bientôt l'été.
Ce blocage est plutôt embêté.
Ah bah oui, on comprend, hein. Oui, à sa place, on ferait pareil.
Il lui demande ce qu'il attend de ce stage. Michel répond « J'attends les vacances ». Il a besoin de chaleur. Il rêve à la moiteur enivrante des Caraïbes. Il est bien loin de ses travaux pratiques. Que lui importe l'installation d'un logiciel dans une fromagerie industrielle ? Il fait semblant de jouer le jeu, branche les connecteurs un peu au hasard, confond les prises des différents périphériques externes, se demande ce qu'est le port vidéo. Bref, le jour de l'examen, Michel H. s'angoisse. On lui demande de connecter un ordinateur au réseau. Il se perd dans les cordons, les câbles spéciaux, les prises mâles et femelles, 6 broches, 4 broches, les entrées, les sorties. C'est alors qu'il repense à l'été. Aux longues plages de sable beige de la Martinique, la Grande Anse, les Salines, le Cap Chevalier. Il s'y voit déjà sirotant un tea punch frais. Michel H. se détend et peu à peu établit le réseau sans y penser. Ça soulage, il s'est bien connecté.
Oh, courage, c'est bientôt l'été. Ça soulage.
Il s'est bien connecté.
Ah non, elle est bien.
Hein. On sent qu'il y a du vécu hein, dans l'histoire.
Oui,
des
oui, oui, on pourrait dire que Michel H. et Jacques V, c'est un petit
quelque
peu
quelque chose en lui de Jacques V.
Frère et grand frère, oui.
Qu'est-ce que c'est que le port vidéo numérique?
Nous sommes deux.
Tiens, là la pluie. Ah, quel sale temps. Où est-il été? L'été où est-il?
Oh là, mais que vois-je apparaître en regardant à ma fenêtre, là, cette dame qui vole en voile de nylon et qui tient un bâton tout plein rempli d'étoiles. Si cette dame est flic, l'est au moins générale.
Non, mon enfant, je suis la fée.
Ah, bonjour, madame la fée.
Mon Dieu, qu'il est bien élevé cet enfant, je veux. Que voudrais-tu? Formule un souhait, j'ai le pouvoir de l'exaucer.
Vrai?
Vrai?
Ben je voudrais qu'on se paie du bon temps.
Du bon temps?
Du bon temps.
Qu'entends-tu par là, mon enfant?
Ben, je voudrais avancer l'été.
Été.
Qu'il fasse avant la Saint-Jambon.
Jambon.
Qu'il fasse beau dès le 10 juin.
10 juin, 10 juin, 10 juin.
Ça serait bien s'il faisait beau d'aimer.
C'est beau d'aimer, beau d'aimer.
Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été wetti? Où est-il été, l'été wetti? Qu'il fasse chaud des méchoui.
Méchoui, méchoui, méchoui.
Puis qu'il fasse beau des pas que beau.
Pas que beau, pas que beau.
Que le soleil tape en marteau.
Marteau, marteau, marteau.
Ça serait bien qu'il fasse des l'hiver beau.
Des l'hiver beau.
Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il été, l'été wetti? Où est-il été, l'été wetti?
Mon enfant ne soit pas haletant.
Saletant, saletant, saletant.
Ton joli souhait m'a beaucoup plu.
Beaucoup plus, beaucoup plus.
Et je vais pouvoir l'exaucer.
Saucer, saucer, saucer.
Oui, je peux, oui, ce pouvoir je l'ai.
Je l'ai, je l'ai, je l'ai.
Abracadabra, c'est ce pluie. Soleil d'été resplendit. Soleil d'été resplendit.
Oh, miracle, un astre éclatant irradie rose au firmament. Ah, dis donc, elle affirme, papa. C'est madame la fée qui a fait ça.
Alors, heureux.
Oh oui, madame la fée.
Charmante enfant.
Merci, madame la fée.
Et c'est poli, adieu, mon enfant.
Au revoir, madame la fée.
Charmant.
Hé, hey, le bonjour à monsieur l'a fait.
Crétin, tiens.
Bobby Lapointe et Jeannine de Valène, tiens, v'là l'été. Courage, c'est bientôt l'été. La phrase avec laquelle on vient de jouer, c'est une phrase qui a un faux air d'aphorisme, comme chasse le naturiste, il revient au bungalow. Ou bien on a toujours besoin d'un caveau de famille, des phrases pleines de bon sens. On en découvre une autre, tout de suite, toute neuve. Elle sort du cerveau imaginatif de Gérard Mordillat. Proverbes, maximes, aphorismes et périls. Gérard, c'est un aphorisme que vous situez à quelle époque ?
C'est un aphorisme qui vient là aussi du fin fond de notre histoire, qui dit « détester l'herbe n'empêche pas d'aimer les vaches ».
Oh, c'est ben vrai.
Bah oui.
Détester l'herbe n'empêche pas d'aimer les vaches. C'est votre cas, Jacques Vallée, non ?
Tout à fait. Et fumer de l'herbe non plus. Hein.
Et donc il faut se reporter en 451, quand Attila, ayant rallié sous sa bannière toutes les tribus germaniques, je m'adresse à Hervé, les Ostrogoths, comme tu l'as remarqué, balaye tout sur son passage et attaque la Gaule. Ses troupes massacrent et pillent, détruisent aussi bien les places fortes que les villages paysans, dont ils tuent les bêtes et ruinent les cultures. En passant en Corrèze, notamment près de la Glégeole, ce fut un effroyable carnage d'hommes, de femmes et d'enfants qui dura de 3 heures de l'après-midi à la tombée du jour. Quand tout fut fini, Attila, monté sur son cheval noir, tel Napoléon, contemplant le soleil d'Austerlitz, traversa avec plaisir le champ de bataille, transformé en cimetière et surtout en désert. Il ne restait rien sur le sol, pas une plante, pas une fleur, pas une herbe, rien. Les Huns avaient tout ratatiné selon ses ordres et rien ne devait repousser. Soudain, le regard d'Attila fut attiré par le seul être vivant au milieu de cette tuerie. Une vache, une brave vache qui semblait ne plus savoir à quel sein se vouer pour trouver un peu d'herbe pour se nourrir. Elle ne se plaignait pas, ne meuglait pas, n'agitait pas la tête de désespoir, non, elle était là, fermement campée sur ses 4 pattes, fixant sans crainte le fléau de Dieu. Jules Briner, le premier lieutenant du 1, arma son arc pour zigouiller ce ruminant qui faisait de l'ombre au merveilleux champ de cadavres qui s'étendait devant lui. Mais Attila retint son geste. Il était bouleversé. Se tournant vers Jules, les yeux pleins de larmes, il déclara « Détester l'herbe n'empêche pas d'aimer les vaches ». Ce qui a été noté et conservé jusqu'à aujourd'hui.
Il y a un deuxième aphorisme qui est né, enfin une expression qui est née à ce moment-là, c'est « Oh la vache !»
Oui, c'est moins bien quand même.
C'est plus court, mais c'est l'expression suprême de la surprise. C'est voir qu'il y a encore un être vivant au milieu de ça et on fait « Oh la vache !»
Oui. C'est la vache qui rit.
Bon, c'est un très brillant apport d'Hervé Le Tellier à votre aphorisme, énorme. Gérard Mordillat. Vous avez peut-être autre chose à nous dire cette histoire d'herbe et de vache.
Mais bien sûr, vous connaissez l'expression « parler comme une vache espagnole ».
Oui,
qui est en fait la déformation de la phrase « parler comme un basque l'espagnol ». Mm. C'est amusant. C'est la même déformation à laquelle on a affaire ici. Et donc, c'était la phrase « détester l'herbe n'empêche pas d'aimer les basques ».
Ah.
Eh oui, Mais c'est pas la même histoire. C'est pas un village basque que Tacatila. Il est jamais descendu aussi bas. Et donc, c'est pas un petit basque au milieu du champ qui a été préservé, qui aurait voulu tuer Yul Brynner, dont la trace dans l'histoire, je n'ai pas retrouvé. Voilà. En fait, non. C'est une autre histoire qui est tout à fait différente et qui est plutôt une histoire sportive. Il existait autrefois, tout comme il existe, je pense que vous le savez, le tennis sur gazon. Oui. Eh bien, il existait la pelote basque sur gazon. Eh oui. Alors, c'était un sport extrêmement fatigant, vous imaginez bien, parce que la pelote, en touchant le gazon, était terriblement amortie. Et il fallait donc des efforts considérables, une énergie folle pour jouer à ce jeu. Et justement, les voyageurs qui visitaient le pays avaient pour coutume de s'y essayer, mais ils abandonnaient, évidemment, très rapidement. Depuis, on a remplacé, pas con, l'herbe par un terrain plus dur. Ah, oui, bien sûr. Enfin, alors, je vous montre des photos, peut-être.
Oui, voilà. S'il vous plaît, faites circuler.
Ah, bah, oui, c'est évident, beaucoup plus dur. Alors, pour s'excuser, le visiteur disait, « Oh, bah, détester l'herbe n'empêche pas d'aimer les Basques. » Eh bah oui, voilà. Et c'est pourquoi on a le droit de détester le sport local et d'aimer les gens qui le pratiquent. Exemple, moi, je n'ai pas une grande affection pour le cricket, mais j'aime beaucoup les Anglais. En sauce.
Ça vous satisfait, Gérard ?
Je trouve que c'est une variante intéressante, mais j'en tiens quand même pour son origine ancienne.
Et laitière, donc.
Et laitière, oui. Ouais. Parce que je pense que dans cette histoire, l'exclusion de la vache pose problème aux consciences.
Et ce qui est très drôle dans votre histoire, c'est que au tennis, quand on joue au tennis sur herbe, la balle est au contraire beaucoup plus vive. C'est pour ça que d'année en année, on ralentit.
C'est une balle, c'est pas une pelote.
On ralentit les terrains en herbe pour que des gens comme Nadal et autres soient aussi à l'aise sur l'herbe que sur la terre battue. Alors que pour vous, la pelote est ralentie à cause de l'herbe.
Parce que
c'est étrange.
La pelote est en cuir.
Oui.
Alors que la
en
balle
cuir de vache.
En cuir de vache.
Et puis vous faites une confusion entre le gazon et l'herbe. L'herbe, c'est haut.
Bah oui, mais bien
le gazon, c'est rare. Alors,
il faut pas mélanger. Hervé Letellier a parlé de tennis sur herbe. J'ai pensé que c'est parce qu'il ne connaît rien au sport et qu'il voulait dire gazon par herbe.
Avoir vécu le cul. Dans l'herbe tendre, et d'avoir su m'étendre, quand j'étais amoureux, j'aurais vécu obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre, le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin, pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu.
L'herbe tendre, Michel Simon et Serge Gainsbourg, qu'est-ce que c'est beau ! Les Papous, c'est dans la tête et sur France Culture. Au micro, Françoise Tressart et la bande des Papous du samedi soir. À suivre jusqu'à 21h, les gonfleurs de textes et le DLA pour un piège littéraire soumis à nous tous par Jean-Bernard Pouy, et plus spécialement encore aux experts Eva Almassy, Lucas Fournier, Jacques Jouet et Patrice Delbourg. Alors les gonfleurs de textes gonflés, une simple phrase déjà porteuse d'un début d'intrigue, jusqu'à en faire une histoire, et gonflée de l'intérieur, en glissant des mots entre les mots, si possible, attention, pas entre un pronom et un verbe, puisqu'il est dans la règle du jeu de respecter la place du verbe ou du substantif du début et celui de la fin. C'était une parenthèse, mais importante. C'est le jeu proposé à Jacques Vallée et Lucas Fournier. Jean-Bernard Pouy, quant à lui, poursuivra et achèvera le récit. Si vous aimez écrire, c'est un bon jeu à pratiquer avec des amis. Alors écoutez. C'est parti avec une phrase imposée que nous lit Jacques Vallée.
Elle poussa la porte et vit sous l'ampoule électrique un petit vieillard fluet, assis en face d'un grand oiseau empaillé avec lequel il semblait jouer aux échecs.
Une belle situation, on voit l'image. Hein, absolument, c'est du Marcel Aimé, les bottes de 7 lieues. Redites-nous ça encore une fois.
Elle poussa la porte et vit sous l'ampoule électrique un petit vieillard fluet, assis en face d'un grand oiseau empaillé, avec lequel il semblait jouer aux échecs.
Qu'est-ce qui vous a le plus motivé pour gonfler de l'intérieur? L'oiseau empaillé, le vieillard, les échecs?
Ben c'est toute l'atmosphère d'ampoule électrique, de petits vieillards sous une ampoule électrique. Et j'ai pensé à un vieux café.
C'est une atmosphère, oui.
Ah oui, c'est une atmosphère un peu sordide, quoi, un peu glauque.
Et j'ai coupé elle et Poussa.
Ah, ben oui, c'est là, quand même pas tout à fait le respect de la règle. Enfin bon, chacun joue à sa façon. Hein, les règles sont faites pour être transgressées, dit-on, n'est-ce pas? Donc on coupe entre elle et Poussa. Et ça va devenir une autre histoire, bien sûr.
Une autre histoire. Elle alla, curieuse, à la rotonde où Bruno lui avait donné rendez-vous.
À la rotonde aussi, oui. C'est très
un vieux bistrot de Paris.
Oui, oui.
Enfin,
oui.
C'est une époque, ancienne.
Oui, bien sûr. Bah, c'est Marcel Aimé, hein.
Oui, ben voilà, c'est à l'époque de Marcel Aimé, la rotonde n'avait pas cette notoriété.
Oh, mais je pense quand même qu'il n'y avait pas des ampoules électriques qui pendaient au plafond sans abat-jour quand même.
Il a connu l'époque de Marcel
Aimé. J'ai connu la rotonde quand même beaucoup moins clinquante que maintenant.
Beaucoup moins sélecte.
Oui.
Alors, juste avec des ampoules qui pendaient au plafond.
Ben oui, mais la rotonde, c'est peut-être pas celle de Saint-Germain-des-Prés. Non, mais c'est peut-être celle de Saint-Germain-des-Prés ou d'ailleurs.
La rotonde.
Ou de Gif-sur-Yvette.
À Salamanque, ben, la rotonde.
Oui, oui. Bon, alors.
Elle alla curieuse à la rotonde où Bruno lui avait donné rendez-vous. Quelqu'un la poussa au moment de passer la porte et se retournant, elle vit que c'était lui. Ils s'installèrent au fond du café sous l'ampoule électrique et commandèrent un petit verre de Bordeaux. Leur voisin, un vieillard, sommeillait. Bruno paraissait fluet. Assis en face d'elle, il ressemblait de plus en plus à un grand oiseau empaillé. Il tenait nerveusement dans sa main un briquet avec lequel il tentait d'allumer une cigarette. Il semblait de plus en plus paumé, mais que lui voulait-il? Elle n'avait pas envie de le fréquenter. Ce serait comme jouer aux échecs.
Ah, c'est joli, il y a une vraie situation, une vraie histoire et ils se sont un peu tous les deux trompés d'histoire. En tout cas, ils n'ont pas envie de vivre la même.
Ben oui, oui. Hein? C'est un point d'interrogation.
Oui, suivi de points d'exclamation, à mon avis. Non. Lucas Fournier, vous avez repris le texte de Jacques Vallée. À votre tour, vous avez gonflé. Alors, je ne vous demande pas si le L... Alla est devenue elle, Alla plus loin.
Oui, il y a elle, Alla, effectivement, et au
vous
début.
Vous avez gardé
elle,
Alla.
Poussa un peu plus loin.
Vous avez été sensible à cette espèce de sombre histoire, un peu
pas
triste.
Pas tellement.
Non,
non, mais pas tellement, mais il y a quelques noms quand même qui,
ah, bien sûr,
qui font image. Et oui. Bruno, d'abord, qui est un prénom qui est difficile à caser. Et puis, La Rotonde, qui évoque bien sûr La Rotonda, le célèbre opéra de Monteverdi, et c'est à ça que j'ai pensé.
Mais toujours la culture avec Lucas Fournier. Oui. Pourquoi Bruno, c'est un prénom difficile?
Sophage.
Hein?
Sophage.
Les Bruno d'Agen.
Oui. Elle alla à l'opéra, curieuse d'assister à la représentation de La Rotonda, où Bruno Montepulciano tenait le rôle-titre.
Ah.
Le ténor avait donné rendez-vous à toute la Sicile lyrique. Et là, quelqu'un poussa un cri stridulant au début de l'acte 2, quand Elvire retient Orlando au moment de passer la porte des Normands et se retournant lui dit adieu. Elle vit, ou plutôt elle entendit, que c'était lui, Bruno, qui venait de se claquer deux cordes vocales. Les pompiers l'installèrent au fond du théâtre. Bruno avait le visage couleur café sous la lumière de l'ampoule électrique. Elle est là, l'ampoule électrique.
Oui, oui.
Et le café aussi.
Bien sûr, oui.
Les pompiers commandèrent un petit verre de grappa pour le ranimer. Il n'y avait que du Bordeaux que leurs voisins apportèrent. Bruno Montepulciano, sans voix, semblait un petit vieillard sommeillant. Il paraissait fluet malgré son quintal. Assis en face d'elle, il ressemblait de plus en plus à un grand oiseau empaillé. S'il avait chanté la pie voleuse, passe encore, mais là. Il tenait nerveusement dans sa main une partition. La lumière s'éteignit. Un pompier, malgré l'interdiction, sortit un briquet, non pas pour tenter d'allumer une cigarette, ce qui est aussi interdit, mais pour mettre le feu à cette fichue partition. Il semblait de plus en plus que quelque chose de non mélodieux se passait. Elle était paumée. Le chef des pompiers lui fit signe de les suivre. Que lui voulait-il? Elle n'avait pas envie de les fréquenter. Celui qu'elle aimait, c'était Bruno. Finalement, elle aurait mieux fait de rester à Messine, pour aller aux vêpres siciliennes avec ses copines ou pour jouer aux échecs.
Ah, c'est très très joli. Et puis, dans le texte de Jacques Vallée, il n'y avait pas une once d'amour entre ces deux personnages. Mais chez vous, il y a de l'amour, il y a de la séduction.
Bah oui, on est en Italie. Hein.
Et oui, et oui. Et donc, Jean-Bernard Pouilly, vous enchaînez sur la dernière phrase de Lucas. Il nous relit sa dernière phrase, Lucas.
Finalement, elle aurait mieux fait de rester à Messine pour aller aux vêpres siciliennes avec ses copines ou pour jouer aux échecs.
Mais le chef des pompiers, qui lui collait au masque, se mit à chanter d'une voix aussi pénétrante que celle du grand Caruso. « Allons à Messine, pêcher la sardine, allons à l'Orient, pêcher le hareng. » Elle admit immédiatement que par rapport à ce soldat du feu, Bruno chantait comme une casserole.
Oh non.
Alors elle le regarda, plissant ses yeux flamboyants comme une éruption de l'Etna, et chanta avec lui. Un mois après, ils se mariaient à la mairie de l'Orient, entourés de toute la diaspora palermitaine qui a depuis longtemps choisi la Bretagne pluvieuse pour échapper à la mafia torride.
Oh. Ah, c'est beau.
Non, c'est une happy end.
Oui.
Et ça s'appelle mariage. Le pompier enflammé. C'est un mélange des deux.
Quanto contenuto tu sai non vuoi giocare, dice non voglia faccio ciega, sentici tutti parlano ma quante parole. Ne pare a mie calmo non te serve, chi un de capisci te vuoi giocare parli. C'è bulia con la spiccia ma quai su tutti i professori. Noia ma tanta, c'è me dai noia, noia ma tanta, c'è me dai noia. De poesia, de fotografia, musica, pure de politica e religione. L'importante c'è ne dici tante e poi non c'è mai fine. De pedagogia, cinema, pure de botanica e medicina. Io non saggio come aggiuffare, me sto dole la tavo.
Noia, noia, ma tanta, c'è me dai noia, noia,
non ci la faccio più.
Noia, ma tanta, c'è me dai noia, noia, ma tanta, c'è me dai noia.
Ma quando devi giunci a respirare, tutto lucisce a quai de maro.
Le groupe s'appelle Canzoniere Grecanico Salentino. Je n'ai pas fait italien en LV1. Dernier rendez-vous, papou, de ce soir sur France Culture, le DLA. Patrice Delbourg, Jacques Jouet, Éval Massy et Lucas Fournier. Aux prises avec un petit bout de littérature choisi, on ne sait dans quel ouvrage, par Jean-Bernard Pouilly. Nos experts seront-ils suffisamment clairvoyants pour en donner l'auteur et avec des arguments littéraires si possible? En seconde chance, Jean-Bernard Pouilly leur soumettra une liste de 3 noms pour qu'ils se décident. Ce jeu n'est pas facile et c'est ce qui est amusant. Jean-Bernard Pouilly, vous lisez?
Nous avons connu le lever hâtif d'avant l'aube. Le postillon attelle les chevaux dans la cour. Des seaux d'eau lavent le pavé. Bruit de la pompe. Tête enivrée de qui n'a pu dormir à force de penser. Lieu que l'on doit quitter. Petite chambre. Ici, pendant un instant, j'ai posé ma tête. J'ai senti, j'ai pensé, j'ai veillé. Qu'on meure, et qu'importe où. Dès qu'on ne vit plus, c'est n'importe où et nulle part. Vivant, je fus ici. Chambre quittée, merveille des départs que je n'ai jamais voulu triste. Une exaltation me vint toujours de la possession présente de ceci. À cette fenêtre, penchons-nous donc encore un instant. Il vient un instant de partir. Celui-ci, je le veux immédiatement qu'il le précède, pour me pencher encore dans cette nuit presque achevée vers l'infinie possibilité du bonheur. Instant charmant, verse à l'immense azur un flot d'aurore. La diligence est prête, partons. Que tout ce que je viens de penser se perde, comme moi, dans l'étourdissement de la fuite.
Alors je précise pour les auditeurs que de la possession présente de ceci, ceci est écrit en majuscule, à cette fenêtre, cette est également écrite en majuscule. Il est curieux ce texte. plein de bizarreries, non, Patrice Delbo? Et non, on a presque l'époque avec l'idée de la diligence,
oui.
Non?
Oui, c'est sans doute avant l'invention du fardier Cugnot, mais et peut-être du cinématographe aussi,
oui.
D'ailleurs.
Oui,
mais c'est pas sûr, ça peut être une fiction. En tous les cas, je pense qu'il s'agit d'un texte de poète, encore
de
une
poète.
Fois.
Oui, ça revient souvent dans les DLA, l'écriture
ça
de
revient
poète.
Souvent, c'est-à-dire là, des syncopes, un montage extrêmement rapide, bref, des seaux d'eau lavent le pavé, bruit de pompe, vous voyez, immédiatement, il y a une écriture quand même très moderne.
Cinématographique,
oui,
absolument,
vous avez raison,
même
Lucas,
si
oui.
Le cinématographe n'était peut-être pas inventé
peut-être
au moment
pas.
Où le texte a été écrit. Alors, il y a un autre indice, c'est qu'il y a plein de points-virgules. Et là aussi, il y a une époque où on utilisait le point-virgule qui était plutôt... plus au 19e qu'au 20e siècle.
Ouais.
Et donc, c'est un texte plein de tensions et de rythmes. Alors, il y a ce mystère énorme de ceci, qui est un pronom démonstratif, écrit en majuscule, et de cette fenêtre, adjectif démonstratif, qui est lui aussi écrit en majuscule. Ceci, cette.
Alors, pourquoi ?
Pourquoi cette fenêtre-là ?
Et à quelle époque est-ce qu'on écrit comme ça des mots ?
Mais jamais on écrit comme ça,
justement.
Jamais.
Jamais.
C'est une culture surréaliste. Dans certaines écritures poétiques, il y a brusquement des mots en calligramme, des mots en capital, des mots un peu qui défilent aussi comme une pellicule de cinéma, hein, au début du XXe.
Première impression, Jacques Jouet.
Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit.
C'est bien déjà, c'est très bien.
Je ne sais pas si vous connaissez ce poème de Victor Hugo, qui est un poème très court en alexandrin, donc ça ne peut pas être ça. Non, mais où il entend les bruits par la fenêtre. Il lance comme ça des bruits de la pompe, là, par exemple. Ça pourrait très bien être dans ce poème. Tu vois ce poème ?
Oui, mais surtout, je vois que Victor Hugo, il lui arrivait d'écrire justement en majuscule.
Ah.
Ah oui, c'est
non, mais
c'est
je pense pas. C'est pas une proposition, mais c'est.
Non, c'est une idée.
Pour moi, ça serait entre ce type de poème tardif de Victor Hugo et quelques pré-surréalistes, alors, oui.
À quoi vous fait penser ce texte, Eva Almessi ?
Moi, ce texte me fait penser à l'essence même de l'écriture, alors de la prose plutôt, qui est du temps mis en mots. C'est quelque chose sur l'instant. C'est un texte pour moi plus moderne que l'époque qu'il décrit, des diligences, puisqu'il y a le présent strict, mais à tel point que parfois il n'y a même pas de verbe, c'est des propositions nominales.
Oui.
Il y a donc le temps, le présent, l'instant, la nuit, l'infini, l'aurore. Après, on l'accroche à un lieu pour accentuer encore le présent, l'endroit où l'on est, la cour, le pavé, le lieu, ici, nulle part, chambre. Et ceci, pour moi, tout en majuscule, c'est aussi le moment présent.
Oui, c'est intéressant, ça. C'est qui, Lucas Fournier, ce personnage qui fuit comme
c'est quelqu'un qui fuit quelque chose, alors.
Oui, mais...
Il fuit un danger qu'il menace ou, au contraire, il part pour son destin qui est... on ne sait pas s'il sera heureux ou terrible, peut-être. Au début, on a l'impression que son destin est terrible, qu'il n'a que cet instant de répit et que quelque chose d'affreux l'attend plus loin.
C'est D'Artagnan.
C'est D'Artagnan, c'est, je ne sais pas, Jean Valjean, peut-être, qui cavale. D'ailleurs, demain, dès l'aube à l'heure où... c'est le début du texte, et partons, c'est la fin, nous partirons. Donc, c'est un condensé en prose de Victor Hugo, qui a aussi ce rythme de Victor Hugo.
C'est perturbant tout ça, non, Patrice Delbourg ?
C'est beau, hein ?
C'est très beau. C'est un texte magnifique.
C'est beau. Là, c'est des seaux d'eau lavent le pavé, bruit de la pompe. C'est magnifique.
Oui.
Il y a quand même un petit moment d'affaissement, là. Charmant, verse à l'immense azur un flot d'aurore. Il y a un retour un peu de poésie symboliste qui montre que le texte a dû être écrit dans les années 1910-1920.
Oui.
Et là, il y a un retour un peu de manivelle du symbolisme. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de D'Artagnan, je pense plutôt que c'est la conquête du Nouveau Monde, c'est Buffalo Bill.
Ah oui.
Donc on est plutôt donc, dans la conquête de l'Ouest. Quand il dit « Une exaltation me vint toujours de la possession présente de ceci ». Qu'est-ce que c'est ceci ? C'est l'or. C'est les pépites d'or.
Ah,
c'est ce que vont chercher les orpailleurs
dans
les rivières.
C'est
la ruée vers l'or qui est racontée ici.
Donc les Indiens ne sont pas loin.
Ils ont vu les flèches et les plumes sont loin derrière.
À moins que soit un auteur du XXe siècle qui écrit sur l'Amérique, non. Parce que c'est, pour moi, c'est évident que ce n'est pas un texte traduit. Il y a tellement d'allitération. Nous avons connu le lever, les chevaux des seaux d'eau, la veuve, donc lever. veiller, lever, laver, après, enivrer, il y a des tas
veiller.
De...
Veiller
vie. Aussi, voilà.
Une vivre, obsession vivant, du V, quoi.
Oui. Il y a beaucoup de V, mais pas que. Donc, un rythme parfait, une mélodie parfaite. C'est la langue française qui a offert son écran à ce lever-là.
Comment elle parle.
Et son écran
elle parle très bien, Eva.
La langue française a offert son écran. Magnifique.
Oui. Jacques Jouet, c'est une traduction ou c'est du français direct?
J'ai un doute à cause de deux lignes que je ne comprends pas très bien.
Allez-y.
Vous allez m'expliquer.
Ouais.
Il vient un instant de partir, celui-ci je le veux immédiatement qui le précède. Je ne comprends pas.
Mais c'est le moment.
C'est l'instant.
C'est l'instant. Et donc, même la fuite à la fin, pour moi, l'étourdissement de la fuite avec l'infinie possibilité de bonheur, on est dans le temps. Donc, on ne peut pas saisir l'instant présent. Il voudrait celui qui précède, donc à travers le souvenir de la nuit.
C'est bien. Elle explique bien les choses, Eva.
Elle explique bien.
On comprend.
On croit comprendre.
On croit comprendre.
On est rassuré. Voilà.
Donc puis c'est après... une traduction. Je pense que c'est une traduction.
Je n'étais pas convaincante alors.
Le postillon, est-ce qu'on dirait aux États-Unis voilà. Le postillon, bonne ça c'est gênant. Autant la diligence,
on dit
ça
la
va
diligence
très bien.
À la fin, le postillon, c'est vrai, mais le postillon.
Mais bon.
Postillon fait français.
Est-ce que John Wayne postillonnait?
Oui, mais un poète français peut prendre cette licence en parlant d'un conducteur de diligence.
Bon, tout le monde est d'accord sur le français, apparemment, Lucas.
Oui, oui. Ah oui.
Oui,
oui. Oui.
Hein
enfin, oui. Bah, si. Du français francophone.
Jean-Bernard Pouy,
oui.
Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous relire ce texte?
Volontiers.
Vous l'aviez très bien lu tout à l'heure.
Nous avons connu le lever hâtif d'avant l'aube. Le postillon attelle les chevaux dans la cour. Des seaux d'eau lavent le pavé. Bruit de la pompe. Tête enivrée de qui n'a pu dormir à force de penser. Lieu que l'on doit quitter. Petite chambre. Ici, pendant un instant, j'ai posé ma tête. J'ai senti... J'ai pensé, j'ai veillé. Qu'on meure, et qu'importe où, dès qu'on ne vit plus, c'est n'importe où et nulle part. Vivant, je fus ici. Chambre quittée, merveille des départs que je n'ai jamais voulu triste. Une exaltation me vint toujours de la possession présente de ceci. À cette fenêtre, penchons-nous donc encore un instant. Il vient un instant de partir. Celui-ci, je le veux immédiatement qui le précède. Pour me pencher encore dans cette nuit presque achevée, vers l'infinie possibilité du bonheur. Instant charmant, verse à l'immense azur un flot d'aurore. La diligence est prête, partons, que tout ce que je viens de penser se perde comme moi dans l'étourdissement de la fuite.
Il y a de nombreuses répétitions du verbe penser. Hein ? Donc c'est vraiment important pour lui. C'est pas un personnage très jeune quand même, parce qu'il dit « merveille des départs que je n'ai jamais voulu triste ». On a l'impression que ça lui arrive souvent de partir, de fuir. Bah. Non ? Eva ?
Bah de fuir ou bien c'est un militaire qui va de garnison en garnison.
Ah, oui.
Il n'est pas forcément âgé pour moi. C'est
dans les
chambres quittées, voilà.
Chambre quittée,
il passe de
voilà.
chambre en chambre, donc il n'est pas forcément...
On passe une nuit et on part, quoi, parce que l'ennemi est à vos portes, vous croyez, Lucas ?
C'est, en tout cas, ce n'est pas la diligence de Beaucaire qui fait la navette entre Beaucaire et Tarascon.
Voilà.
Hein.
Non,
là, on est dans les grands espaces, hein. On va au-delà de la Camargue.
Donc il fuit parce que, selon l'hypothèse d'Elbourg, les Indiens sont tout prêts. C'est pour vous.
Pour moi, c'est le temps qui fuit.
C'est le départ.
C'est le départ vers
l'absolu.
Chambre
quittée, merveille des départs. C'est pas forcément une fuite.
Non, c'est le temps qui fuit.
Départ vers un nouveau monde.
Le texte se termine sur la fuite, quand même.
Des instants.
C'est peut-être un long trajet qu'il raconte et que sa fuite est jonchée d'étapes. De chambre en chambre.
Écrivain voyageur, oui. Bien sûr.
Voilà.
Mais c'est une traduction. Hein, oui. D'accord.
Non, c'est une traduction de l'anglais.
Mais ce qui est non résolu pour nous, c'est à cette fenêtre, sept écrit en
majuscule.
Pourquoi sept? Celle-là?
Oui.
Celle-ci plutôt.
Mais parce qu'on est là maintenant.
Dans le texte original, c'est la vis.
On est là à cette fenêtre.
Oui, peut-être.
Mais ça pourrait être une autre.
Bon, si c'est traduit pour vous, Jacques, c'est donc traduit de l'anglais.
Oui, c'est traduit de l'anglais.
Ça. Pour vous,
Britannique.
C'est du français britannique. Lucas Fournier, traduction pour vous.
Français frontalier.
C'est très français. Donc vous êtes le seul tenant de la traduction,
Jacques. Moi, je vous ai demandé de retraduire un peu et voir.
Non, c'est traduit de l'anglais.
Il a dit vice pour cette. Non. Est-ce que vous avez des noms avancés?
Oui,
il y en a au moins deux, trois.
Alors, Eva Almassi. Je dirais Aragon. J'ai aussi pensé à Nimier, mais je maintiens Aragon. Mais parce que c'est tellement bien écrit, tellement supérieurement bien écrit. Et puis,
Jean-Bernard Pouille choisir Aragon, c'est impossible.
Ça, c'est impossible. C'est
littéraire, comme
ça. Ça, c'est pas littéraire. Mais non, moi,
et bien, Aragon, vous avez le droit
à Eva. C'est ma réponse à un texte de poète où il y a quand même des histoires racontées, des chevaux, des diligences.
Une diligence. Patrice Delbourg, vous avez froncé le nez sur Aragon, bien écrit. Parce que vous n'aimez pas Aragon, c'est ça?
Non, je pense qu'Aragon, c'est bien écrit, mais ça ne m'empêche pas de ne pas l'aimer beaucoup. En revanche, celui qui a écrit ce texte, je l'adore.
Et
c'est notre nomade professionnel, c'est notre affoleur de méridiens, c'est notre détrousseur de continents, c'est Sandrard. C'est Blaise Sandrard. Regardez, partons. Oui. Toute sa vie, il fallait lâcher les amarres, il fallait lever le camp. Donc là, c'est dans un livre qui s'appelle L'Or, où il raconte comment des migrants sont partis vers ceci. La possession de ceci, c'est l'or. Et cette fenêtre, c'est la fenêtre qu'on ouvre le matin quand on sort de son grabat sur son vieux chalet métallique, comme ça, et qu'on voit des grands horizons devant soi. Et au bout, la possibilité de refaire sa vie, de laisser derrière la fuite de ses amours, la défroque du vieil homme.
Je l'écouterai pendant des heures, Patrice Delbourg.
Quel pavé elle avait avec des seaux d'eau.
Où ça, les seaux
d'eau? Là, dans la poussière du Far West.
Eh bien, les seaux d'eau. Le matin, il faut nourrir.
Il faut bien se laver quand même, puis nourrir les.
Le museau des chevaux. Avec la peau. Le seul problème qu'avait soulevé Lucas, c'est effectivement le postillon.
Oui.
Alors, on dit un cocher, mais il y a des postillons au Far West.
Sandrard peut dire postillon.
Puis Sandrard était né à La Chaux-de-Fonds, donc il connaissait peut-être pas le mot juste.
Alors, un Blaise Sandrard pour Patrice Delbourg, Lucas Fournier pour vous.
Évidemment, il y a un piège qui serait Victor Hugo, mais nous n'allons pas tomber dans le piège.
Vous avez tourné autour.
Mais non, il y a un écrivain qui écrit comme ça, avec beaucoup de rythme, une écriture cinématographique, qui est un écrivain formidable, qui s'appelle Pierre Loti. Et ça pourrait être, par exemple, dans le roman d'un Spahi. C'est le malheureux Spahi qui a quitté son midi natal pour aller en Afrique où il s'ennuie un peu et il se remémore tout le périple qu'il a conduit jusque-là. Voilà, tous les départs, le matin, les chambres quittées, c'est cet enthousiasme qu'il avait et puis la nostalgie qu'il a de ces moments-là.
Tout ça est très argumenté. Jacques Jouet, alors, c'est anglais?
C'est anglais, enfin c'est évident.
Shakespeare, c'est de Shakespeare.
Mais non, c'est Stevenson, c'est un texte de Stevenson.
Ça, c'est pas sourd.
Stevenson sur le départ, enfin.
C'est avec un âne, c'est pas avec des chevaux.
Mais non, il a pas fait que ce voyage dans les Cévennes, il en a fait d'autres. Non. Je crois que c'est Stevenson.
On a des très beaux noms à vous proposer, Jean-Bernard Puy.
Ah, ils sont beaux, pour être beaux, ils
sont beaux. Donc, Louis Aragon pour Eva Almassi, Blaise Sandrard pour Patrice Delbourg, Pierre Loti pour Lucas Fournier. Et Stevenson pour Jacques Jouet. Alors, y a-t-il un gagnant?
Absolument pas. Mais tout ce qu'ils ont dit est juste.
Mais ça les a conduits à un faux nom.
Absolument extraordinaire et colle absolument à l'auteur, sauf le nom d'auteur.
C'est dommage.
Tu t'es trompé peut-être, non, toi?
Le fait que je sois poète, c'est bon. Bref, les trois noms.
Oui.
Par ordre alphabétique, André Gide, Paul Valéry et Oscar Wilde.
Ah bon. Alors, Gide, Valéry et Wilde. Alors, vous avez votre anglais, enfin.
Bah oui,
Jacques Jouet.
Il me semblait bien.
Vous le prenez, Wilde, Jacques Jouet?
Attendez.
Entre Wilde et Stevenson, il y a quand même un monde.
Pas trop
alors, on vous propose Gide, Valéry et Wilde. Qui veut se prononcer en premier?
Moi, je vais prendre Paul Valéry. Alors, uniquement pour des raisons géographiques, parce que Paul Valéry, c'est 7.
Oui.
Bon, la diligence de Beaucaire, c'est pas si loin. Hein, et le Spahi, là, il est des Cévennes, c'est quoi?
C'est Ben O'Clock.
Hein, c'est à 40 km
de
Paul
c'est
Valéry.
Rien du tout, ça.
Et c'est la même ambiance quand même, voilà. On est dans le sud, on part le matin. Il y a la diligence. Il y a ce petit passage poétique, instant charmant, verse à l'immense azur, un flot d'horreur. Parce que Paul Valéry, de temps en temps, il pouvait aussi se lâcher un peu. Et dans la mièvrerie aussi, quand il était amoureux, parce que ça lui arrivait de temps en temps, il écrivait des choses très très mièvres. Donc,
c'est pas forcément mièvre, verse à l'immense azur, un flot d'horreur.
Oui.
Non? C'est joli. Oh, alors un Paul Valéry.
Non mais ça plaît aux jeunes filles.
Non mais c'est pas possible, Paul Valéry. Il faut l'exclure immédiatement. Il refusait absolument d'écrire. La marquise sortit à 5h et il aurait écrit La diligence est prête. Impossible. Excusez-moi. Inimaginable.
Donc vous réfutez l'hypothèse Valéry.
Je réfute également Gide parce que c'était son copain.
Bon.
Donc Oscar Wilde, lui, ça me paraît très très vraisemblable.
Un Oscar Wilde pour Jacques Jouet. Eva Almassi.
Alors bien entendu, je vais choisir là Valéry, le penseur, puisque j'ai dessiné toute la structure d'espace-temps qui a été installée dans ce texte. Oui. Et vous l'avez souligné vous-même. Mais le verbe le plus actif du texte, c'est penser. Oui. Donc moi, je choisis Valéry.
Un deuxième Valéry. Et pour Patrice Delbourg, alors?
Il y a cet instant charmant là, qui verse à l'immense azur un flot d'aurore. Oui. Là, c'est quand même un petit affaissement dans le texte. Donc, qui est-ce qui est encore titillé par cette poésie-là? Eh bien, c'est le jeune Gide. Absolument. C'est le jeune Gide dans peut-être, je ne sais pas quel texte, peut-être... La diligence de Beaucaire, 1928. Mais je sens intimement que c'est Gide, mais je n'ai pas vraiment d'argument pour ça.
Bon, alors nous avons un André Gide pour Patrice Delbourg, un Oscar Wilde pour Jacques Jouet et deux Paul Valéry, n'en déplaise à Jacques Jouet, qui est foncièrement contre cette hypothèse. Les deux Paul Valéry sont proposés par Lucas Fournier et Val Massy. Il y a forcément un ou deux vainqueurs, Jean-Bernard.
Là, c'est le poète qui a trouvé le poète. Bon, donc,
Patrice Delbourg.
Ouais, c'est Gide.
Ah,
et
oui.
C'est un texte que vous avez tous lu, bien évidemment, sur les nourritures terrestres.
Ah bon?
Le premier. Et qui date de 1897. Qui avait fait, sinon scandale, du moins forte impression à l'époque. Alors c'est surtout les... Pourquoi les diligences, les postillons, tout ça? Bon.
Ouais.
Parce que c'est surtout la relation d'un voyage en Algérie et en Tunisie, les nourritures terrestres. Donc c'est encore des pays qui étaient relativement reculés à l'époque et qu'il a absolument adoré. Alors, les nourritures terrestres sont des petits textes pensifs qui sont adressés à deux personnes. On ne sait pas si ce sont ses amoureux ou pas, Nathanaël et Ménacle. Ou alors si c'est comme Rilke un peu, il s'adresse à des gens dont il voudrait faire l'éducation. Alors c'est des textes qui ne parlent que d'une seule chose, c'est le désir. Le désir et quelquefois le plaisir, mais surtout le désir. C'est extrait assez charnu, assez bousculant quand même de temps en temps. Et pour ces années-là, il y a des figures de style qui sont tout à fait étonnantes. Et les éditeurs de maintenant ne publient pas bien ce texte. Parce que lui, quand il l'a proposé, quand il a fini, c'était des textes qui étaient démembrés, fracturés. Il y avait des calligrammes, il y avait un peu tout. Enfin, c'était un peu l'époque aussi où ça pouvait se faire. Et c'est vrai que j'ai vu une édition première, un peu. On dirait une œuvre dada, presque. Alors, les éditeurs, ils ont tout ramassé pour que ça puisse être un peu lisible, quoi. Mais c'est assez étonnant. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu. Quand j'ai lu ça,
C'est une très bonne idée. Bravo Patrice Delbourg au second tour, mais quand même, hein, il fallait le faire.
Oui, ceci, en majuscule quand même, ça témoigne d'une personnalité qui ne se prend pas pour la moitié d'un... Et Gide était quand même un être assez mégalomane, assez... Donc ça peut mettre sur la voie ces majuscules.
Ça aurait dû vous mettre sur la voie.
Oui. Alors j'ai pas vérifié, mais ça pourrait être un exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a dû écrire la phrase, et ceci en gros. Sur la feuille, après à 7 fenêtres, on va écrire en tout petit à
comme
côté.
Comme un calligramme.
Peut-être que 7 c'était comme une fenêtre, je sais pas. Donc ça, les éditeurs ne le reproduisent plus.
C'est dommage.
Ouais, oui.
Et 7, c'est un dommage à Paul Valéry. C'est comme ça qu'on écrit 7.
À la diligence,
ça s'écrit CE2TE, bien sûr que oui, c'est Paul Valéry.
Les papous du samedi soir, c'est fini. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Jean-Louis Deloncle, à podcaster sur franceculture.fr pour nous emmener en vacances de Noël, par exemple. Et pour les commentaires, direction notre page Facebook. Voilà, on se retrouve samedi prochain à 20h pour un numéro spécial Exploration et Explorateur à la Papou. Au revoir, belle fin de soirée sur France Culture.
Quoi?